sur Genèse 3:6. Et il y a quatre questions. Et je vous encourage à prendre l'habitude de chercher les réponses dans le texte biblique, parce que c'est étonnant comment la parole décrit l'homme. Ça m'étonne toujours, les descriptions. C'est vraiment riche. Donc, et si la première question, on va regarder quelle est l'émotion d'Ève. On va chercher, parce que le cœur se dévoile par les émotions, des réactions à des situations. C'est comme un tube de dentifrice. On peut vivre notre vie tranquillement et tout à coup, il y a quelque chose qui nous met la pression. Et ce qui sort, la pâte qui sort, c'est notre cœur qui parle. Et là, on voit le vrai état de l'âme, l'homme intérieur. Ça se manifeste sous la pression de la vie, des circonstances de la vie. Et les émotions révèlent aussi beaucoup dans ce processus. Donc, pour que je puisse finir à l'heure, je vous donne 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon? Ah, vous n'avez pas la feuille avec la question. C'est le... Ok, vous avez la feuille qui commence avec apprendre, discerner le cœur? Ah, ok, désolé. Ah, ok, désolé. Ah, il y a encore ici, peut-être. Oui, il y a, on a...
Qui est-ce qui n'en a pas eu?
Ok, en attendant, je vais lire, c'est Genèse 3:6 qui dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il mangea. » Donc, creusez le texte. Quelle est l'émotion d'Ève? Qu'est-ce qu'Ève désire, selon le texte? Les émotions et les désirs d'Ève révèlent ce qu'elle pensait. Quelles étaient ses pensées les plus probables? Là, on essaie de projeter pour mieux comprendre les options possibles de pensée. Et la volonté est ce qui nous pousse à agir. Nous faisons ce que nous voulons parce que nous voulons ce que nous voulons. Quels étaient les désirs dominants d'Ève? Ok? Pardon? On va discuter. Après, on va discuter et on continue avec une autre étude de cas. Ok? Prenez 5 minutes pour faire le petit travail sur Ève, Genèse 3:6. Je vois que certains ont terminé. Vous pouvez avancer au prochain, discerner le cœur de Jésus, mais on va rester sur cette feuille, on va pas ajouter le deuxième pour avoir assez de temps pour partager après. Donc, faites la deuxième partie de cette page 3, discerner le cœur de Jésus, sur Matthieu 26. Alors, prenons quelques minutes pour partager les réponses. Alors, on a vu Ève d'abord. Soyez libre à partager vos réponses. Mais quelle est l'émotion selon vous, selon le texte, d'Ève? Oui, Yves.
Elle a confiance en ce qu'elle a vu, mm-hmm. Et qu'elle a entendu du serpent.
Oui, c'est exactement. C'est vrai qu'on peut être même convaincu de quelque chose qui est fausse. Et c'est vrai, c'est vrai. Qui d'autre? Oui.
Satan lui a pu. A créé en elle un sentiment de frustration.
Très bien, oui.
Il a fait miroiter des choses qu'elle n'avait peut-être pas imaginées, mm-hmm. Devenir comme Dieu, des gens,
oui.
Des yeux ouverts.
Oui, le désir principal.
Elle cherche déjà à se persuader de transgresser, de désobéir. Elle se persuade, elle dit il est bon à manger, il est propre à donner du discernement, il est agréable à la vie. Elle s'auto-persuade.
Oui.
Passer à l'étape suivante. Je vais désobéir.
Elle va devenir semblable à Dieu.
C'est ce mot-là. Oui. La convoitise. Là, elle convoite.
Elle convoite.
Elle est convaincue, elle est vraiment trompée. Oui, elle est persuadée et elle va dans cette direction-là. On peut aussi dire qu'elle manque quelque part en elle de la satisfaction avec Dieu et le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour elle.
Parce qu'elle veut même devenir presque son égale.
Mm-hmm.
Le fait de voir l'intelligence de ses yeux sombres, et ça me fait penser un peu à la tour de Babel, voilà, on veut trouver l'égal avec Dieu, l'égalité avec Dieu.
Mm. Donc l'émotion qu'on peut avoir, on peut être même en paix avec des choses. Je sais, en France, vous valorisez beaucoup l'émotion. Et je l'entends beaucoup dans les descriptions, dans les conversations. L'émotion, c'est très important. Et on voit aussi le plaisir, donc une émotion de plaisir, agréable à la vue. Donc, la convoitise, essentiellement, le plaisir, tout ce qui a été mentionné ici, manque de satisfaction. Mais qu'est-ce qu'elle désire? Le mot convoitise aussi, et donc elle convoite quoi? L'indépendance? Oui. L'intelligence? Oui, sa propre gloire.
Forme d'ambition aussi de devenir semblable à Dieu.
Oui. Ambition.
Qui n'aurait pas cette
ambition. Mm-hmm. Oui, elle veut faire ce qu'elle veut. Comme elle veut, quand elle veut. Voilà. C'est pas des idées étrangères.
Et le rôle de l'homme aussi, qui a reçu l'instruction de ne pas manger du fruit, alors qu'elle n'était pas encore là. Comment est-ce qu'il lui a transmis le désir?
Oui, voilà, tout à fait.
Oui,
c'est vrai. Il y a des choses qui ne sont pas nécessairement noir et blanc dans cette histoire, oui. Oui.
Mais son jugement est fondé sur des choses artificielles, c'est-à-dire c'est elle qui donne la beauté aux fruits, parce qu'elle est disposée de cette manière, c'est elle qui imagine que ça va illuminer son intelligence,
oui.
Alors qu'elle n'en sait rien,
oui.
Etc.
C'est vrai.
On se donne des excuses.
Et nous la comprenons, n'est-ce pas? Le dynamique d'Ève, on le connaît bien. Les émotions, donc quelles étaient peut-être les pensées les plus probables d'Ève? Oui.
Une volonté d'être égale à Dieu.
Mm-hmm. Oui.
Elle voulait, et elle souhaitait plus que ce qu'elle a. Ce qu'elle a, finalement, ça ne lui suffisait pas. Ça lui suffisait jusqu'à un certain moment.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Elle a pensé peut-être, mais Dieu m'a privé de quelque chose. Il me manque, j'ai le droit. Exact. Donc.
On dirait quand il est viendront, quelqu'un, Satan lui dit, les yeux s'ouvriront.
Mm-hmm.
C'est-à-dire de voir les choses.
Oui.
Il est dit que Adam et Ève ne voyaient pas.
Tout à fait.
Ils ont vu son verre.
Une tentation, une promesse de d'être plus capable, voilà, d'avoir des puissances, des pouvoirs, oui, de plus.
En fait, sa frustration ne reste pas.
Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais cet exercice nous aide à comprendre Ève était égarée par ses désirs, ses émotions et par Satan vers quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour elle. Et on est tous pareils. Mais cet exercice nous aide à comprendre avec la parole, à décortiquer les émotions, les pensées, les valeurs, les désirs, pour nous aider à comprendre la dynamique du cœur des personnes qui viennent nous voir. Oui.
Il n'y a pas un sentiment de peur aussi.
Oui.
Le fait de dire, bon, mes yeux sont grands, ça va, j'aurai l'intelligence, tout ça. Mais quand même, si ça foire ou quoi, je vais quand même partager ça avec mon mari. Si ça foire ou quoi, je vais quand même
Oui, ça nous fait réfléchir à des possibilités.
L'intention de sortir du plan prévu par Dieu pour elle.
Oui. Sortie du plan parfait de Dieu.
Sans qu'elle se sentait un peu prisonnière par rapport au commandement que Dieu lui avait donné, en fait, la limite qu'il avait fixée. Et l'impression de se libérer en passant outre, de devenir plus libre, plus indépendant.
C'est un très bon point. Quand on, la perspective que nous avons vis-à-vis de Dieu et sa parole et ses commandements peut nous influencer à penser différemment et en pensant que je veux être plus libre, j'aime pas être prisonnière. Donc, c'est pourquoi c'est très important d'avoir ce paradigme biblique pour comprendre correctement, avoir des pensées qui reflètent la volonté de Dieu, la vérité de Dieu, parce qu'on peut s'éloigner carrément, même avec les idées du monde, j'ai le droit, pourquoi pas, et voilà, et en fait on commence à s'éloigner de la vérité de Dieu, le plan de Dieu.
C'est exactement ça. Moi personnellement, quand je vois un panneau de limitation de vitesse, je me dis que c'est pas moi.
Oui, c'est vrai, je finis avec Ève, avec le mot autorité. Quelle est l'autorité dans la vie d'Ève? Elle-même. Quelle est mon autorité dans ma vie? C'est une bataille. Je lutte. Nous luttons avec ça tous les jours. La même chose avec les entretiens, le suivi avec quelqu'un, on creuse. Quelle est l'autorité de la personne devant nous? Parce que on va souvent trouver des idoles. Les idoles, c'est quelque chose ou quelqu'un qui remplace Dieu. On n'a pas le temps d'aborder, mais je vous ai laissé les quatre idoles principaux, idoles du cœur, qui parlent de, les idoles du cœur, c'est le confort, l'approbation, le contrôle, le pouvoir. Nous avons tous des tendances vers ces idoles-là. Ok, on va vite creuser Jésus, l'exemple de Jésus, les questions. Alors là, on voit aussi Jésus, il avait des émotions. Dieu merci, les émotions viennent de Dieu. C'est pas une question de nier les émotions. Moi, j'ai rencontré des chrétiens qui niaient les émotions et c'est triste. Dieu nous a donné des émotions. Donc, quelles émotions Jésus éprouve-t-il, selon le texte?
Angoisse, tristesse.
Oui, angoisse, tristesse. Pardon? La peur. Le doute. La solitude. Aussi. Nous voyons dans ce texte qu'il n'est pas mauvais ou pécheur d'avoir ou d'exprimer des émotions, comme la tristesse, l'angoisse. On peut se sentir coupable avec cela. Mais les émotions, nos émotions reflètent nos désirs, souvent expérimentés dans des situations difficiles. Ça fait monter des émotions et qui révèlent notre cœur. Mais quel est le désir de Jésus, selon le texte?
Faire la volonté de son Père.
C'est clair. Il y a une lutte. Personnellement, ça m'encourage de lire que Jésus a lutté parce qu'il avait son côté humain et en étant divin. Mais le désir, c'était vraiment d'obéir à Dieu. Mais d'abord, quand même, le texte dit, il avait le désir que Dieu lui enlève cette tâche de mourir sur la croix et de ne pas souffrir. Ça, on doit reconnaître ça. Mais son désir dominant, c'est un mot clé, dominant, son désir dominant, c'était vraiment le bon désir de obéir à Dieu. Oui.
Il aspirait au secours de Dieu dans la prière.
Pardon?
Il aspirait au secours du Père.
Oui, il a cherché l'aide de Dieu pour... Oui, tout à fait. Il a cherché son père dans sa souffrance, dans sa difficulté. Mmh. Et, oui.
Je trouve que ce qui est beau, c'est qu'il demandait de l'aide.
Oui. Je suis contente que vous avez relevé ce point, cette vérité. Si, parce que des fois, honnêtement, des fois, on a du mal à demander de l'aide. Et quand on même examine ça un peu bibliquement, je peux témoigner que moi, c'était par orgueil que je voulais pas chercher de l'aide. Je voulais pas admettre aux autres que je peux pas faire et j'ai besoin d'aide. Donc, si Jésus avait besoin de demander de l'aide, pourquoi pas nous? Donc, et j'aime beaucoup les mots de Jésus qui dit « non pas ce que je veux ». C'est vraiment le désir que nous adoptons cette attitude, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Et Jésus a fait passer la volonté du Père avant la sienne. Voilà des exemples bibliques du cœur de l'homme que nous pouvons creuser pour mieux comprendre notre cœur et le cœur de ceux qui viennent nous voir, qui sont en difficulté. Je vous donne un peu de devoir, si vous me permettez, parce qu'avec le temps, la prochaine page, page 4, au milieu, il y a une question. Et vous, comment votre cœur réagit-il habituellement aux épreuves? J'aimerais que vous pensiez à une situation assez récente où vous avez réagi, peut-être d'une manière qui était un peu, ça peut être choquant, ça peut être frustrant, notre façon de réagir à des difficultés. Et là, avec certaines questions, ça nous aide à comprendre pourquoi j'ai réagi avec autant de colère. Pourquoi j'ai sorti ces mots-là? On va pas chercher des réponses d'abord dans mon enfance, mon éducation, voilà. Non, oui, ça joue quelque part, mais la racine, le plus important, le plus grand racine, c'est mon cœur, mon attitude du cœur. Donc, je vous donne ça comme devoir et on peut voir ça la prochaine fois, mais essentiellement, c'est de commencer à analyser vous-même vos propres réactions à des situations difficiles. Que le Seigneur vous aide à faire ce travail, c'est efficace, vraiment, à comprendre son propre cœur pour mieux reconnaître aussi le dynamique du cœur qui est tellement décrit dans la parole. Et pour avoir cette paradigme biblique qui n'est pas tordu avec des influences du monde et que le Seigneur nous apprenne à vraiment l'honorer dans ce désir de mieux se connaître et aussi aider les autres en creusant la parole. Merci.
Est-ce que ça va pour vous? Vous avez encore des réserves pour tenir une heure? L'hypoglycémie ne vous guette pas encore? Merci. Dans vos notes, on devrait être rendu maintenant à la diapo numéro 54, si je ne me trompe pas. Vous allez trouver cette image-là. On est toujours dans ce principe de définition. Alors, j'ai pas forcément fait dans l'ordre exact des notes que vous avez là. Mais qu'est-ce que nous avons là? Un ballon de... Et là, nous avons un ballon de... Voilà. En français, ce sont les deux mots identiques. Alors, on définit ça comme du football américain pour nous. Les Américains n'appellent pas ça du football, ils appellent ça soccer. Mais nous avons besoin, quand nous sommes face à deux concepts qui sont proches, on a besoin de définir Qu'est-ce qui va différencier ce football-là de ce football-là? Les règles du jeu, notamment, la forme du ballon, la façon dont on se veille. Donc, il y a un certain nombre de critères objectifs qui vont nous permettre de différencier football et football. De la même manière, ici, on va essayer de définir un peu plus ce qu'est la relation d'aide biblique, parce que relation d'aide, vous allez pouvoir l'entendre associée à tout un tas de choses. Vous allez entendre parler de relation d'aide chrétienne, et je dois vous dire que la relation d'aide chrétienne, ça n'est pas de la relation d'aide biblique. C'est trompeur, parce que ce sont des termes avec lesquels on est très familier, et on pourrait d'un coup faire un amalgame. Vous allez entendre parler de relation d'aide tout court, vous allez entendre parler de thérapie chrétienne, de psychologie et de psychologie chrétienne aussi. Alors comment est-ce qu'on discerne dans tout ce mélange ce qu'est la relation d'aide biblique? Alors nous allons vous proposer quelques critères qui vont nous aider à savoir quand la relation d'aide est biblique. Déjà, on a vu que la relation d'aide biblique, c'est du discipulat. C'est un discipulat avancé. On veut s'attaquer non pas seulement aux actions, mais aux désirs qui sont dans le cœur de l'homme, désirs qui contrôlent ses actions. On a un petit peu vu aussi que c'était de la théologie pratique. En réalité, le discipulat, c'est ça. C'est la théologie que l'on veut mettre en pratique. Vous, vous faites partie de ce dispositif Théopôle, donc vous êtes des étudiants. Oh, merci, il y en a qui ont été plus plus réactifs que moi pour remarquer que ça chancelait. Mais je vais me mettre là, ça sera plus pratique. Hein. Là, c'est là. Non. Bon, ça va aller, ça va aller. Donc vous avez déjà suivi des cours de théologie, n'est-ce pas? Est-ce que je peux me permettre de vous mettre en garde? Parce que c'est très dangereux de suivre des cours de théologie, vous savez ça? Ayant été à l'Institut biblique, j'ai suivi beaucoup de cours de théologie. C'est très bien, mais c'est très dangereux aussi, parce que si je reste simplement à ce niveau-là, c'est totalement inutile, ça va me faire gonfler, la connaissance enfle, mais c'est l'amour, donc quelque chose qui a trait à la mise en pratique, qui va édifier, qui va construire, qui va me faire avancer. Donc je vous encouragerai toujours à faire de la théologie, mais à condition que ça devienne de la théologie pratique et que ce que vous appreniez, vous le mettiez en pratique. Sinon, c'est dangereux, trompeur, c'est une illusion terrible. Une illusion vraiment terrible. Donc, nous, ce que nous voulons faire, c'est de la théologie, oui, mais de la théologie qui sert à vivre. Sinon, ça sert à rien. Et c'est de la cure d'âme, c'est-à-dire du soin apporté à l'âme. Ces deux définitions-là, nous les avons vues, mais nous allons voir les caractéristiques qui compose la relation d'aide biblique. D'abord, il va falloir de l'amour et du soin. Je vous lis ici Éphésiens, chapitre 4 et verset 15, où l'apôtre Paul nous dit que c'est en professant la vérité dans l'amour que nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc croître en Christ, c'est-à-dire devenir de plus en plus semblable à lui, ça se fait lorsque deux choses sont ensemble, la vérité et l'amour. Il faut que les deux soient ensemble. S'il n'y a que vérité, ça peut être juste une arme de destruction massive. Hein. La vérité toute nue, très crue, ça peut être très tranchant. Dit sans amour, ça peut faire beaucoup de dégâts. L'amour sans vérité, c'est quelque chose d'assez dégoulinant et mou, ça n'a pas de colonne vertébrale. Mais l'amour et la vérité, ça se tient droit. C'est utile, c'est bon, c'est précieux. Donc il faut l'amour et la vérité. Et c'est totalement différent d'une relation professionnelle et commerciale. Ce qui ne nous empêche pas d'être sérieux, hein, mais on est dans l'amour et dans le soin. Ça se fait avec un croyant ou un groupe de croyants. Là, ce que l'on fait là, c'est de la relation d'aide biblique, on l'apprend. Ce que vous recevez le dimanche matin, lors de la prédication, c'est aussi de la relation d'aide biblique. Ça prévient ou ça guérit la relation d'aide biblique. Lorsqu'on est le dimanche matin, ça peut faire les deux. Ça nous prévient parce que ça nous annonce les voies de Dieu et nous empêche de tomber dans le péché. Mais nous recevons aussi des instructions qui vont nous permettre de nous remettre dans le droit chemin et de guérir en ce sens-là. La relation d'aide biblique, c'est un échange. c'est une conversation. Ça n'est pas les paroles d'un maître à un élève, ni d'un professionnel à un client. Ce sont deux chrétiens qui vont chercher à s'aider l'un l'autre. Et je peux vous dire, ayant maintenant un petit peu d'expérience dans ce domaine-là, lorsque j'aide mon prochain, je m'aide moi-même. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où je me suis retrouvé à donner un conseil à un frère et me dire, mais attends, Baptiste, ça te concerne là. Là, tu annonces quelque chose qu'il te faut mettre en pratique dans ta propre vie. C'est sanctifiant de faire cette œuvre-là parce que ça m'aide, ça me transforme moi-même. Et c'est vraiment très, très bienfaisant. L'apôtre Paul, il parle d'exhorter avec larmes. Donc, il peut y avoir ça, un dialogue, un échange très intense dans la relation d'aide biblique. Il parle aussi d'avertir comme des enfants bien-aimés. Donc, il y a de la tendresse, il y a du soin, l'avertissement, parce qu'on ne veut pas la souffrance de l'autre, au contraire. Ça doit se faire selon les Écritures. Ça, je pense que s'il y a une chose qui est claire, au moins depuis qu'on est là ensemble ce matin, c'est qu'on est là pour faire quelque chose qui est selon la parole de Dieu, selon les Écritures, parce que 2 Timothée 3,16 nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça instruit aussi la relation d'aide biblique. On est là pour apporter le conseil de Dieu, l'instruction divine à notre prochain, ce qui suppose que nous ayons nous-mêmes étudié un minimum la parole de Dieu, qu'on sache de quoi il est question. Tout à l'heure, notre sœur disait que ça ne peut pas être mis entre les mains de tout le monde, et je suis assez d'accord dans une certaine limite, parce que sera un bon conseiller celui qui a une bonne connaissance de la parole de Dieu. Celui qui ne l'étudie pas ou qui n'a qu'une connaissance très très superficielle ne pourra malheureusement apporter qu'un conseil aussi superficiel que sont ses connaissances. Pour revenir sur le préventif et le curatif, dans le jardin d'Éden, Dieu a fait les deux. Les premières instructions qu'il a données à Adam et Ève étaient des instructions préventives. Voilà le chemin dans lequel vous devez marcher. Je vous ai créé pour que vous cultiviez le jardin, pour que vous le gardiez, pour que vous croissiez et multipliez sur la terre. Et puis lorsqu'Adam et Ève ont chuté, lorsqu'ils ont péché, il y a eu un conseil curatif. Voilà maintenant ce que vous allez devoir faire. Je vous donne un châtiment qu'il vous faut accepter. Voilà la nouvelle façon dont votre vie va se dérouler. Mais je vous donne aussi de l'espoir. Il va y avoir la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. C'est un ministère que l'on exerce pour glorifier Dieu, ça on l'a déjà dit abondamment. Mais il faut être conscient que ce ministère, il est exercé par des gens imparfaits qui vont aider d'autres gens imparfaits. Vous êtes des pêcheurs qui avaient besoin d'aide et vous allez aider des pêcheurs qui ont besoin d'aide. Donc il faut savoir que nous sommes tous en chemin pour glorifier Dieu. Il n'y a pas un qui est arrivé déjà et qui peut se dire « Ah, yé, moi c'est bon, je suis le maître et les autres sont les disciples. » Ça ne fonctionne pas. Et on pratique la relation d'aide biblique pour amener un changement. Je disais tout à l'heure, et ça a quelque chose qui peut être un petit peu choquant, notre but n'est pas de rendre les gens heureux. Notre but est de les amener à un chemin qui glorifie Dieu parce que nous croyons que alors ils pourront être heureux. Parce que l'homme qui est dans le chemin où il glorifie Dieu, où il cherche à servir le Seigneur, alors là, il expérimente sa propre vocation, ce pourquoi il a été créé, ce qui est le vrai bonheur. Olivia a dit quelque chose tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, elle a dit que le problème n'est pas le problème, mais c'est le cœur qui est le problème. Et c'est là que nous amène la relation d'aide biblique. Ça nous amène au cœur, qui est la source de nos pensées, de nos actions, de nos paroles. Souvent, le problème que l'on vient nous présenter en tant que conseiller n'est pas le vrai problème. C'est quelque chose qui pose problème, mais ça n'est pas ça le problème de fond. Je prends cet exemple d'une personne qui vient me voir pour, dit-elle, un problème de colère. Personne qui se met beaucoup en colère, qui ressent cette émotion désagréable, qui est la colère, et elle la manifeste de manière problématique parce qu'il lui arrive d'être violent, cette personne, de violent dans ses actes, mais aussi dans ses paroles. Ça blesse tout le monde autour. Donc on peut dire que cette personne a un problème avec la colère et que la colère lui pose un certain nombre de problèmes. Pour autant, peut-on dire que le problème est un problème de colère? Lorsque l'on creuse un petit peu, en discutant, en établissant une relation, en établissant une relation de confiance, d'amitié, qu'on se pose des questions, qu'on exhorte, on se rend compte qu'en réalité, la colère n'est qu'un fruit. Le fruit de ce qui est à l'intérieur et qui a été dérangé, et on ne veut pas être, on ne veut pas toucher à ça. Il y a quelque chose à l'intérieur auquel on a touché, et ça me dérange beaucoup, et c'est pour ça que je me mets en colère. Donc la colère n'est que le fruit, et moi il faut que j'arrive à la racine de ce fruit. Et cette personne, la personne à laquelle je pense, en l'occurrence, a besoin d'apprendre que ce n'est pas son comportement qui doit changer, c'est ce qui se trouve dans son cœur. Parce que si on ne change que le comportement, en admettant qu'on y arrive, hein, ce qui est là une supposition gratuite, mais admettant qu'on arrive à changer le comportement de cette personne, le cœur à l'intérieur, il sera inchangé, toujours le même. Or, à quoi regarde Dieu? Au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est notre cœur qui intéresse le Seigneur. Donc c'est pour ça qu'il faut chercher à ce qui se trouve dans le cœur, à la racine du problème. Un problème qui peut être un problème d'idolâtrie. On a touché à quelque chose que je chéris par-dessus tout, que je chéris par-dessus même l'obéissance à Dieu, puisque je choisis, ou en tout cas je me mets en colère, je blesse ceux qui sont autour de moi pour qu'on ne touche pas à cette chose qui est trop sensible, que je ne veux pas dévoiler. Donc Dieu ne souhaite pas que le comportement change si le cœur n'est pas changé. Parce que sinon, ça s'appelle de l'hypocrisie, purement et simplement. Je ne sais pas si, pour ceux qui ont des parents, ça vous dira quelque chose. Moi, il m'arrive de demander à mes enfants de ranger leur chambre. Mes enfants, parfois, se plient à cette consigne. Vous voyez, parfois, hein, c'est pas toujours. Mais je peux savoir assez facilement que leur cœur n'a pas changé, parce qu'ils vont y aller en traînant les pieds, j'ai pas envie d'aller ranger ma chambre. Donc ils vont discipliner leur extérieur, leur comportement, être conforme à ce que j'ai demandé, mais alors à l'intérieur, c'est fait sans aucune bonne volonté, sans aucun enthousiasme, sans comprendre que derrière, si papa demande de ranger la chambre, c'est qu'il y a un intérêt à le faire. Il y a un intérêt pour tous, déjà de pas marcher sur des petits Legos, ça fait mal, mais il y a d'autres intérêts, on va pouvoir y voir plus clair dans la chambre, on va pouvoir retrouver des choses avec lesquelles on ne pouvait plus jouer parce qu'il y avait trop de bazar. Donc il y avait un intérêt que l'enfant ne voit pas, donc il y va en traînant les pieds. Donc il y a quelque chose dans le cœur qui n'est pas changé. Et ce qui fait, le comportement peut changer, mais moi ça m'intéresse pas juste que le comportement change. Je veux que mes enfants comprennent l'intérêt qu'il y a à faire ça. Alors j'avance, là on est à la diapositive 63 dans vos notes. Toujours pour réussir à discerner entre relation d'aide et relation d'aide biblique, hein, et entre tout ce qui se trouve autour. Notre conseil va être bon à partir du moment où il va être biblique, c'est-à-dire qu'il va trouver son origine dans la parole de Dieu. Donc il faut que la Bible soit reconnue comme fondement. Pour que la relation d'aide soit biblique, il faut que la Bible soit reconnue comme fondement. J'arrive directement ici. Il faut que la parole de Dieu donc soit autorité dans notre vie. Si je vous parle d'herméneutique, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, l'herméneutique? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'herméneutique? Ah, C'est la science d'interprétation des textes anciens. En l'occurrence, nous, on fait de l'herméneutique biblique. Donc, pour avoir un conseil biblique efficace, une bonne relation d'aide biblique, il faut qu'effectivement la Bible soit reconnue comme autorité. Mais il faut aussi qu'on ait une compréhension correcte de la Bible. Parce que la Bible, on pourrait lui faire dire presque n'importe quoi. Si les passages sont pris hors de leur contexte, on peut légitimer presque n'importe quoi à l'aide de la Bible. Donc il faut une herméneutique convenable. Comprendre correctement ce que la Bible dit, à qui elle le dit, dans quel contexte elle le dit, pourquoi elle le dit. Ça va nous amener à l'exégèse. Et là, on va, avec de l'exégèse, on va essayer de décortiquer un petit peu le texte. Essayer de comprendre un petit peu mieux le contexte et ce que je viens de dire. Qu'est-ce que la Bible dit? À qui elle le dit? Pourquoi elle le dit? Dans quelles circonstances? Pour mieux comprendre. Et puis, ne pas faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Ah, pour ne pas donner un conseil qui, tiré de la Bible, ne serait pour autant pas biblique parce qu'il ne correspond pas à la pensée de Dieu dans le texte biblique. Et à partir de là, on va développer de la théologie biblique et systématique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des études de doctrine, étudier ce que la Bible dit sur un sujet donné. Vous avez certainement déjà eu des cours de doctrine, de la bibliologie par exemple, qu'est-ce que la Bible dit sur elle-même? Ou de la théologie, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de Dieu? De l'ecclésiologie, qu'est-ce qu'elle dit au sujet de l'Église? De la sotériologie, qu'est-ce qu'elle dit au sujet du salut? Donc c'est en faisant ces études-là que l'on va commencer à avoir une connaissance plus poussée des différents domaines que la parole de Dieu aborde et qu'on va pouvoir avoir un conseil qui soit plus complet sur la parole de Dieu. Et enfin, on va passer à de la théologie pratique. Sachant tout cela, on a la Bible pour autorité. On l'a comprise correctement, on en a fait une exégèse correcte. On est sûr que le passage dit bien ce qu'il dit. Là, on peut en tirer une application pertinente pour la personne que nous voulons aider ou pour nous-mêmes. Sans cela, si on passe du point 1 au point 5, sans passer par les étapes 2, 3 et 4, on court un certain nombre de risques. Et c'est comme cela qu'on arrive à des conseils abusifs, ou alors complètement inappropriés, totalement déconnectés du besoin réel, qui ne vont pas coller à la situation de la personne ou à son problème réel. Est-ce que ça va jusque-là? Qu'est-ce que vous voyez ici? Des bananes. Des fleurs. Est-ce que ces bananes vous ont l'air de pousser sur un bananier? Non, hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas un bananier? C'est pas les bonnes feuilles. C'est pas les bonnes fleurs non plus. C'est pas les bonnes branches. Ah, oui, il y a quelque chose qui... On voit que les bananes ont été accrochées là. Elles ont été accrochées là. Ça, c'est ce qui se passe quand on s'adresse au comportement sans s'adresser au cœur. On va simplement chercher à changer les fruits. Imaginez, vous avez dans votre jardin un beau pommier. Un beau pommier seulement, les pommes qu'il produit ne sont pas bonnes. Et votre épouse, votre mari, j'en sais rien, en a assez de voir ce pommier qui occupe le jardin inutilement, il produit des pommes, oui, mais elles ne sont pas bonnes. Il faut que tu me solutionnes ce problème. Alors vous allez au marché, vous achetez une cagette de pommes délicieuses, un bon rouleau de scotch, vous enlevez toutes les vilaines pommes sur le pommier et vous allez accrocher de bonnes pommes délicieuses que vous avez achetées au marché avec votre rouleau de scotch et vous les collez sur cet arbre. Est-ce que votre mari ou votre femme en rentrant à la maison va être content? Non. Est-ce que vous avez solutionné le problème? Pas du tout. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe quand on veut juste changer le comportement et qu'on ne s'adresse pas au cœur. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est soit amender l'arbre, lui apporter des nutriments dont il a besoin pour que ses racines soient nourries et qu'il porte de bons fruits, soit appliquer une autre méthode du Seigneur Jésus. Cet arbre occupe la terre inutilement, on le retire et on en plante un bon qui porte de bons fruits. Là, dans ce cas-là, si on veut des bananes, il va falloir changer l'arbre. Cet arbre-là ne donnera jamais de bananes. Jamais. Et bien souvent, c'est ce qu'il faut faire dans notre cas. Il faut changer ce qui est à la racine, notre désir, notre pensée, le but que l'on poursuit. Donc le ministère de relations d'aide va être biblique lorsqu'il est fondé sur l'autorité de la parole. On a détaillé un petit peu ce que c'est que l'autorité de la parole de Dieu. Et il faut reconnaître que le ministère va être biblique lorsque tous les croyants sont encouragés à le pratiquer. Le discipulat ne concerne pas que quelques chrétiens, ça concerne tous les chrétiens. On est tout à fait d'accord pour dire que ce ministère au sens restreint et formel du terme ne sera peut-être exercé que par quelques-uns, là-dessus on est tout à fait d'accord, et toujours, dans tous les cas, sous l'autorité des responsables de l'Église. Mais Dieu a voulu que tout le corps s'implique. Tout le corps. Et on peut facilement imaginer plusieurs niveaux d'engagement dans la relation d'aide biblique. D'abord, une simple amitié spirituelle. Une personne, un frère, une sœur à l'Église avec laquelle vous vous entendez bien, où il y a une relation de confiance qui vous permet de vous confier simplement l'un à l'autre, et peut-être au début simplement de prier l'un pour l'autre. On a déjà commencé à faire de la relation d'aide biblique quand on est dans ce domaine-là. On a commencé à faire du discipulat, puis peut-être donner un conseil, comme ça. Lorsque une personne aura un petit peu plus de connaissances, de formation, d'entraînement en relation d'aide biblique, là on peut imaginer lui confier le soin de personnes qui sont en proie à des problèmes plus spécifiques, problèmes de dépression, des problèmes spirituels, l'éducation des enfants par exemple, l'anxiété ou des peurs. Et puis après il va y avoir des gros problèmes, gros problèmes d'addiction, des gros problèmes de violence par exemple, qui là vont nécessiter de faire face à quelqu'un qui a une réelle expérience, une autorité dans ce domaine-là. Donc on est d'accord que tout le monde doit faire de la relation d'aide biblique, mais tout le monde ne va pas forcément la pratiquer de la même manière. Ça ne veut pas dire que tous les croyants doivent avoir affaire à tous les problèmes. Ça ne fonctionne pas. Il y a un certain nombre de problèmes, par exemple, que je ne gère pas. À l'église, je ne m'occupe pas de femmes, en général. C'est Olivia ou d'autres sœurs qui ont été formées, qui sont chargées de s'occuper des femmes. Après, si par exemple il y a un cas de discipline, là je vais pouvoir intervenir dans le processus, mais je ne resterai pas seul dans ce cas-là, par exemple. Donc vous voyez, c'est d'accord, tout le monde en fait, mais à des degrés divers. Et on n'hésite pas à se solliciter les uns les autres pour se demander, mais qu'est-ce que tu ferais, toi? Il y a un mois de ça, j'ai appelé un frère aux États-Unis parce que je dois aider deux jeunes personnes à l'église. Et j'étais bien embêté, j'avais besoin de ses lumières, de ses conseils, j'ai pas hésité à lui passer un coup de téléphone, on s'est vu et puis on a discuté là-dessus, pas hésité à demander de l'aide surtout. La parole de Dieu, elle nous dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » On va regarder ensemble dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 et 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. On voit ici, à l'aide de ce passage, que tout le monde n'aura pas le même ministère. Il y a des personnes qui vont s'y consacrer et qui remplissent un certain nombre de critères, tout simplement pour pouvoir exercer un ministère public. Et il y en a d'autres qui ne remplissent pas les critères bibliques nécessaires pour être installés dans un ministère biblique à proprement parler. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des disciples, mais on n'a pas la capacité, au vu d'un certain nombre de critères qui sont énoncés dans la parole de Dieu, pour les installer dans un ministère public et reconnu par l'Église. Mais Dieu veut qu'on soit tous transformés. Donc c'est là où il nous faut faire vraiment attention. Et plus on va chercher à obéir au Seigneur, plus on va chercher cette conformité à Christ, plus on sera finalement ce vase d'honneur, prêt à être utilisé par le Seigneur. Le ministère de relations d'aide va être vraiment biblique lorsqu'il est motivé, alimenté, soutenu par l'amour. On pourrait faire des tas de choses, hein, mais si ce n'est pas l'amour qui sous-tend notre action, la parole de Dieu dit que c'est vain. Donc on peut enseigner pendant des heures, si c'est pas fait avec de l'amour, ça sert à rien. On peut donner sa vie entière pour une cause noble, mais si ce n'est pas l'amour qui est la motivation principale, si ça n'est pas fait avec amour, ça ne sert à rien. Le Seigneur Jésus nous a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Donc c'est un amour, oui, mais un amour semblable au sien, un amour sacrificiel. La parole de Dieu, elle nous dit aussi que l'amour de Christ nous presse. Donc c'est par l'amour que nous sommes poussés à agir. Ce qu'on voit là, et ce qui est écrit ici, c'est que dans la relation d'aide biblique, les motivations comptent. Elles comptent plus que l'action elle-même. Parce que l'action, encore une fois, sans la motivation, c'est une hypocrisie quelque part. C'est vide. Notre ministère va être vraiment biblique lorsqu'il va se concentrer sur la relation avec Christ et pas seulement sur le problème. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu que le problème n'est pas le problème, mais le cœur est le problème. Si nous péchons, c'est qu'il y a un problème quelque part dans notre relation avec Christ. Ce que nous voulons, c'est ramener notre frère ou notre sœur plus proche du Seigneur. Restaurer sa relation avec Christ. C'est d'autant plus important que nous ne solutionnons pas les problèmes. Nous ne faisons pas changer le cœur. Nous n'avons absolument pas cette capacité-là. C'est Christ qui fait changer un cœur. Donc notre rôle, ce n'est pas d'être Christ. Nous pouvons être, dans une certaine mesure, la bouche de Christ, les mains de Christ, les pieds de Christ, pour venir au secours de notre prochain, mais nous ne sommes pas le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il nous faut amener cette personne au Seigneur. Notre rôle est de ramener cette personne dans une relation saine et sainte avec le Seigneur, pas de la rendre dépendante de nous. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'on peut compter sur un processus limité dans le temps, parce que le but n'est pas de la rendre dépendante de nous, mais de la rendre dépendante du Seigneur. Une fois que la personne est sa relation avec le Seigneur est restaurée, une fois qu'elle a en main les clés pour gérer ce problème-là d'une manière biblique, alors notre rôle s'arrête là et nous pouvons nous mettre de côté et nous avons accompli ce que le Seigneur demande. Donc on ne va pas se concentrer seulement sur les problèmes, mais sur la relation avec le Seigneur. Alors, quelle était la méthode du Seigneur? Ça, c'est intéressant. Quand vous regardez, par exemple, dans Luc 18 avec le jeune homme riche, ou dans Jean 4 avec la Samaritaine, on va prendre un exemple. Tiens, Luc 18, on va le lire ensemble. Luc 18, à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Après, quel était le problème du jeune homme riche? Oui? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur? L'argent? L'amour de l'argent, une idole? Oui. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans cette relation avec lui? Il a identifié cette idole. Il ne s'est pas seulement... Il ne s'est pas contenté de cibler le comportement, parce que visiblement, le comportement de cet homme était assez pieux. J'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse, donc aux yeux des hommes, il était pieux. Mais sa relation avec Dieu était-elle telle qu'elle devrait être? Non. Visiblement, l'opinion des hommes était importante, mais le problème que le Seigneur cible, c'est quoi? Il y a quelque chose d'autre sur le trône que moi. Ça tourne autour de tes richesses, ça tourne pas autour de moi. Et donc, ça, c'est un problème. Le Seigneur l'a pointé de suite, et j'aime beaucoup le fait que dans un autre évangile, il a dit « Le Seigneur l'aima et lui dit ». On aurait pu penser que le Seigneur était sans cœur en le pointant directement ces choses-là. Non, il dit « Le Seigneur l'aima ». Et lui dit, voilà quel est ton problème. Voilà quel est ton problème. Tu as un problème avec l'argent. L'argent a une trop grande importance. Ton argent n'est pas soumis à ma souveraineté. Qu'est-ce que le Seigneur a fait avec la femme samaritaine dans Jean 4? Il noue une relation avec elle. Une relation qui coulait pas de source, si on peut dire, hein, parce que visiblement pour elle, c'était assez inattendu, et il va lui dire là aussi la vérité. Tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Quel était le problème de cette femme d'après vous? Quels étaient les problèmes de cette femme? Il y avait un problème d'adultère, oui. Après quoi est-ce qu'elle courait? L'approbation, oui.
La sécurité.
Chercher l'homme parfait. Peut-être.
Elle l'a trouvé.
Oui. C'est vrai. Avec le Seigneur, elle l'a trouvé. Peut-être qu'elle cherchait l'amour. Elle était désespérée d'amour, cette femme. Et puis aussi terriblement blessée par le regard des autres. Rejetée. Donc, il y avait un certain nombre de problèmes, plusieurs problèmes, pas un seul, hein, dans le cœur de cette femme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image qu'avait montré Olivia tout à l'heure avec le plat de spaghetti, là, l'énorme plat de spaghetti. C'est ça le cœur de cette femme. Il y a plusieurs choses qui sont enchevêtrées les unes dans les autres. C'est pas facile de s'y retrouver. Mais le Seigneur fait son chemin dans son cœur avec douceur et arrive à l'amener, à l'attirer à lui.
Est-ce que ça veut dire que là il y a une clairvoyance de Dieu qu'on n'a pas?
Oui.
Et que dans le contexte biblique, on peut se planter?
Ah, bien sûr. Bien sûr. Ah, mais c'est l'œuvre de chrétiens humbles envers d'autres chrétiens, appelés à être humbles aussi.
Jésus ne juge pas.
Et nous ne sommes pas là pour juger non plus. Mais il faut faire attention à ce qu'on entend par juger. Ouais. C'est juger dans le sens de condamner. On est appelé à discerner. Hein, à discerner. Mais comment est-ce qu'on va faire pour éviter les erreurs de jugement? Alors là, j'anticipe sur le module 2, mais on va poser des questions. En réalité, on va poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Parce que justement, on veut pas taper à côté. On veut pas donner un conseil à l'emporte-pièce. On veut savoir ce qui se trouve dans le cœur. On veut comprendre la situation de notre prochain. Savoir ce qu'il vit, pour ne pas non plus nécessairement projeter ce que nous vivons. Ah, je connais, c'est bon, je suis passé par là. Peut-être pas.
Oui, il y a des pièges. On peut tomber dans un piège en tant que conseiller. Donc il y en a à éviter. On peut peut-être mentionner ça la prochaine fois. Mais ce que je voulais dire, c'est de s'appuyer sur le fait que vous avez entendu beaucoup le mot péché aujourd'hui, ce matin. Et il y a peut-être des fois des mauvaises interprétations de la relation d'aide biblique en disant, oh, c'est, on est tapé par la Bible, voilà, c'est très brusque et difficile, mais en fait, oui, on parle du péché, mais c'est d'abord, et d'abord la compassion, l'écoute, la présence, le temps, avec la personne. C'est d'abord vraiment pour créer un lien de confiance, de bienveillance. Donc, oui, certains conseillers, conseillères pratiquent avec trop de dureté, avec une manque de compassion. Nous essayons vraiment de pratiquer. Tu as mentionné l'exemple de Jésus qui s'est approché de cette dame pécheresse avec douceur. Et c'est ça que nous essayons d'apporter dans les entretiens. L'amour, la compassion, la douceur, la vérité, la fermeté sur les choses bibliques. Oui, on aborde le péché, mais surtout avec compassion. Parce que les gens, après tout, chaque personne qui cherche de l'aide, ils sont soit coupables d'avoir péché, ou ils sont victimes de péché, d'un péché de quelqu'un d'autre. Voilà. Mais même en étant victime, on est appelé à s'examiner pour nos responsabilités, dans nos réactions, en subissant le péché de l'autre. Je suis responsable pour mon comportement, ma réaction à cette péché. Devant Dieu, je suis responsable, mais en même temps, je vais chercher à voir, par exemple, les femmes qui sont victimes d'abus. Je vais regarder, me rassurer qu'elle est en sécurité, qu'elle a les besoins, voilà. Je vais, bien sûr, aborder ça. Aussi, les côtés médicaux. Une des premières choses, ce que je demande, c'est, est-ce que vous avez fait récemment un bilan de santé? Voilà. Donc, ça nous concerne aussi. On peut pas interpréter quelque chose, un comportement qui est lié avec un déséquilibre physiologique. C'est arrivé. Il y avait un pasteur qui a, pas en France, mais il avait un comportement de colère, des fois, qui était inhabituel. Et le pasteur principal, après deux reprises avec des jeunes, le pasteur principal l'a convoqué. C'est quand la dernière fois que vous avez fait un bilan de santé? Oh, je sais pas, je m'en occupe pas. Mais il a ordonné de le faire. En fait, il avait un diabète non diagnostiqué. Ce pasteur des jeunes. Donc, il a dû suivre un traitement et son comportement coléreux s'est mis en place, c'est réglé. Donc, c'est important de considérer la personne entière et de poser beaucoup, beaucoup de questions.
J'aimerais rebondir sur l'exemple de la Samaritaine avec la Samaritaine. Oui. Jésus nous montre vraiment comment l'attitude que l'on peut avoir et que l'on a quand on a cette écoute, parce qu'il sait très bien ce qu'est son péché. Quel est son problème?
Oui.
Et il ne va pas lui dire tu as ce péché ou ce problème. Il lui pose des tas de questions qui l'amènent à elle verbaliser, et c'est parce qu'elle a verbalisé elle-même son problème et son péché qu'elle peut après accepter la solution de Dieu. Enfin,
oui.
Ça évitera le genre d'erreur où on interprète peut-être de façon.
Bien sûr.
Et je trouve que. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, le meilleur des six a été Christ, et le meilleur des exemples et de méthodes,
absolument.
Les psychologues autres n'ont pas inventé.
Absolument. Oui, et la méthode qu'on utilise avec la parole, excusez-moi, c'est de faire, d'aider la personne à reconnaître leur péché. C'est pas moi de pointer le doigt, c'est ça ton péché. Non, pas du tout. C'est vraiment accompagner, aider la personne à saturer son intelligence, ses pensées avec la vérité de la parole, pour que le Seigneur fasse le travail en elle, pour réaliser, ah, voilà, je suis un guide, de sorte, mais je suis pas là pour pointer le doigt, voilà. Donc, c'est important de dire cela.
Pour avoir fait l'expérience d'avoir été vers quelqu'un qui est venu vers moi, et le fait de l'écouter change mon point de vue. Parce qu'en fait, je l'avais peut-être ou jugé, ou en tous les cas,
perçu d'une telle façon, d'une certaine façon, qui n'était pas du tout ça. Et le fait d'entendre ce qu'elle avait à dire sur sa vie, c'était pour moi parfois une belle gifle.
Oui.
Qui me disait, mais voilà, tu ne dois pas avoir des a priori ni juger quoi.
Absolument. Et là, on touche à quelque chose qui est vraiment fondamental, c'est que nous n'avons pas cette connaissance surnaturelle qu'avait le Seigneur. Le Seigneur, étonnamment, a posé des questions parfois. C'est étonnant. Pourquoi le Seigneur pose-t-il des questions? Lui qui sait tout. Il a demandé à Adam dans le jardin, où es-tu? Est-ce que le Seigneur ne savait pas où était Adam? Bien sûr qu'il savait où était Adam. Mais il y a eu, ces questions-là étaient nécessaires non pas pour le Seigneur, mais pour Adam. Par contre, elles sont nécessaires pour nous qui cherchons à conseiller, parce que nous n'avons pas la connaissance surnaturelle du Seigneur. Nous cherchons à mieux connaître ces personnes-là et les connaître avec beaucoup de précision et de compassion. Parce qu'effectivement, si nous, on n'est pas là pour taper sur la tête des gens avec la parole de Dieu. Ça n'est pas de la relation d'aide biblique. C'est un ministère de compassion, biblique, mais de compassion. Dieu est un Dieu de compassion. Tu allais dire quelque chose, Paul?
Je voulais dire que l'écoute de l'autre peut être superficielle, bien entendu. Nous écoutons ce que la personne a à dire, mais que le Seigneur nous vienne à notre aide pour que, sous les paroles, nous discernions ce qui motive la personne. Et souvent, nos questions ultérieures viennent de ce que nous avons perçu sous les paroles.
Oui. Et ces questions, une grosse partie du ministère de relations d'aide consiste à poser des questions, de bonnes questions. Tout à l'heure, Olivia en a passé quelques-uns. On appelle ça des questions rayon X, parce que ça nous permet de commencer à discerner ce qui se trouve dans le cœur, les désirs, les intentions, les pensées, tout ce qui motive et qui n'est pas apparent, qui ne saute pas aux yeux. Ce qui nous saute aux yeux, c'est le comportement. Il a mis sa main dans la figure de sa femme. On est d'accord, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. On va lui dire, non, il faut plus que tu mettes la main dans la figure de ta femme. D'accord. Mais derrière, si on ne l'aide pas à gérer le véritable problème, le cœur, et on va chercher, avec ces questions rayon X, à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a, quelle idole il a chéri plus que Dieu. Donc on ne cherche pas seulement à gérer des problèmes, mais on vise une transformation du cœur, pas seulement à rendre la vie plus simple à notre prochain, mais vraiment à glorifier Dieu. Si justement on se trompe d'objectif et qu'on cherche à résoudre des problèmes, si déjà on ne va pas poser les bonnes questions, notre prochain va venir avec son problème, il va déposer un gros sac plein de spaghettis devant nous. Voilà mon problème, maintenant tu gères ça. Nous on va vouloir écarter le sac des spaghettis. Voilà, le problème est solutionné. En fait, c'est pas ça notre ministère. Sinon on va faire du comportementalisme. On va essayer de coller des bananes sur un abricotier. Ça fonctionne pas. Ça marche pas. Donc il faut amener les personnes à se comprendre. Et nos questions vont nous aider, nous, à les comprendre, mais vont les aider elles-mêmes à comprendre ce qui se trouve dans leur cœur. Quelles étaient leurs motivations? Des questions que beaucoup ne se posent jamais. C'est étonnant, hein, le peu de regard intérieur que nous portons sur nous-mêmes. Nous sommes aveuglés par notre propre péché. Nous ne nous voyons pas. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de la confrontation des uns avec des autres. Les uns avec les autres, parce que ça va nous éclairer. On a besoin les uns des autres pour être confrontés à ce qu'on est. Des fois, des questions qui nous gênent un petit peu aux entournures. On va nous poser, mais qu'est-ce que tu voulais là? Qu'est-ce que tu voulais? En fait, je me rends compte que je voulais me protéger. Par exemple, alors je ne vais pas épiloguer là-dessus. Une bonne question à se poser lorsque l'on s'apprête à aider quelqu'un, c'est où est-ce que je trouve ça dans la Bible? Où est-ce que je trouve ça? Où est-ce que ce concept va se trouver dans la Bible? on voit ça normalement dans le module 2, mais je fais un petit aparté maintenant. Vous serez peut-être confronté à des personnes, vous allez vous dire, mais je ne trouve pas de situation identique dans la Bible. Ou peut-être que vous êtes vous-même face à un problème, vous vous dites, mais il n'y a rien pour moi dans la Bible. En réalité, il faut se garder de prendre la Bible comme un catalogue qui pourrait répertorier chaque problème et chaque solution. La Bible ne fonctionne pas comme ça. Mais on a plutôt une vision globale de comme le disait Olivia tout à l'heure, vous ne trouvez pas le mot traumatisme dans la Bible. Pour autant, est-ce que la Bible ne parle pas de personnes traumatisées, de personnes qui souffrent? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut s'appliquer du conseil de Dieu aux personnes qui sont en souffrance? Bien sûr que si. Et c'est là où on va non plus prendre la Bible comme un répertoire des différents soucis que la vie peut nous occasionner, mais comme le conseil de Dieu dans des situations données ou des situations plus ou moins semblables. Et on va devoir chercher nous-mêmes dans la Bible en tant que conseiller où est-ce que je trouve quelque chose qui ressemble à la situation de cette personne-là, où il y a des problèmes de cœur différents, semblables, et des solutions proposées. On va bientôt terminer avec quelques pensées encore sur les idées qui viennent de la psychologie. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait de ces tests de personnalité? Oui, hein? Parfois, elles sont un petit peu customisées pour paraître bibliques. Il faut faire attention avec ça parce que la Bible ne donne pas de grands traits de personnalité. Elle ne catégorise pas les gens en grands types de personnalité. Et vous êtes peut-être tombé sur des tests de personnalité ou sur des articles ou des podcasts ou des prédications un petit peu à l'emporte-pièce, style comment réussir sa vie en 3 étapes, comment changer. Il y a des choses bonnes hein, parfois dans ce type de contenu, mais il faut s'en méfier, la vie est rarement aussi simpliste et la Bible n'est pas aussi simpliste que cela. Donc il faut se méfier de ces choses qui nous amènent à faire des amalgames. Parce qu'au final, le risque que l'on court, c'est d'une part se détourner de notre étude de la parole de Dieu. Le chrétien devrait être une sorte d'éponge imbibée de la parole de Dieu, apprenant à penser comme Dieu, saturé des pensées de Dieu. Ce type de mentalité va aussi plutôt glorifier ceux qui ont créé ces systèmes plutôt que Dieu lui-même. Elles vont chercher, et ça c'est très présent dans notre société, un but qui est l'épanouissement. La grande valeur aujourd'hui que l'on recherche, c'est l'épanouissement. On cherche à être épanoui. Donc on va chercher ce qui nous fait plaisir. Et ça c'est un objectif qui peut être profondément idolâtre. Parce que ça tourne autour de moi. C'est moi, moi et rien que moi. Et donc il faut vraiment faire attention. On va utiliser ces choses-là aussi pour devenir des excuses. Ah ben, j'ai vu dans tel test de personnalité, mais moi je suis comme ça. Je suis comme ça, je suis une personne colérique. C'est comme ça, j'y peux rien. Alors, il est peut-être vrai que vous êtes une personne colérique. Il est même peut-être vrai que c'est un tempérament naturel. Mais pour autant, est-ce que ça ne peut pas être changé? Est-ce que c'est parce que c'est naturel, ça doit rester ainsi? Est-ce que tout ce qui est naturel est bon? On peut en douter sérieusement, parce que nous naissons naturellement pécheurs. On est appelé à changer. Oui. Il faut que tu parles plus fort, je pense, pour que... Absolument. Ah, ça c'est indispensable. Ah oui, ça c'est indispensable. On peut faire de la relation d'aide avec des non-chrétiens, mais le premier objectif sera de les amener au Seigneur. Parce que sinon, ils n'ont pas reçu la puissance pour changer. Donc, sans le Saint-Esprit à l'intérieur, la personne va rester morte. Et là, on fera du comportementalisme uniquement. Mais on peut faire de la relation d'aide avec des personnes qui ne sont pas au Seigneur en cherchant à les conduire au Seigneur. Bon, et pour terminer, ça nous amène à prendre des décisions complètement non bibliques. Une chose, un slogan que vous entendez jusqu'à plus soif, c'est « fais ce que tu as dans le cœur ». Fais ce que te dit ton propre cœur. Ça, c'est problème. Dites-moi que je suis pas le seul à avoir entendu ça. Hein. On le voit partout. Mais dans le monde, hein, j'entends. On le voit partout, mais c'est extrêmement dangereux. Parce que la Bible dit que mon cœur est tordu, qu'il est pécheur. Donc si je fais ce qu'il y a dans mon cœur, même en tant que chrétien, hein, faut que je fasse attention pour sonder, évaluer mes motivations et mes désirs à la lumière de la parole de Dieu. Et donc pour récapituler, et je m'arrêterai là-dessus aujourd'hui, la relation d'aide va être vraiment biblique lorsqu'elle est fondée sur une herméneutique correcte, une exégèse prudente, une théologie saine et sainte, et lorsqu'on va toujours se demander d'où provient ce concept. Où est-ce que je trouve ça dans la Bible? Où est-ce que je trouve ça dans la Bible? C'est pour ça qu'on fait de la relation d'aide biblique. Biblique. Et j'espère que vous aurez retenu une chose au moins de ce matin, malgré les controverses que cela peut susciter et que je comprends parfaitement, parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas facile et qui exerce une certaine emprise sur nous, c'est que c'est ce livre qui compte. Ce livre qui compte parce qu'il nous montre le chemin vers le Seigneur. Je propose qu'on prie ensemble. Seigneur, on veut te remercier d'avoir pu passer cette matinée tous ensemble. On veut te remercier pour le guide sûr et fiable qu'est ta parole. Merci parce que nous l'avons dans notre propre langue, accessible. Merci pour la liberté que nous avons d'y recourir aussi souvent que nous le voulons. Nous sommes en liberté pour te louer. Merci aussi, Seigneur, parce que tu ne cesses de nous appeler à nous conformer à ta parole, à y revenir sans cesse, comme le seul guide sûr et fiable pour nos vies. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu ne t'es pas lassé de nous, alors que nous sommes pécheurs par nature, de ce que tu ne nous as pas jugés et exterminés, mais que tu nous as sauvés par ton Fils, et de ce qu'encore et toujours tu veux poursuivre cette œuvre en nous. Je te bénis, Seigneur, pour ta patience immense, parce que tu nous appelles encore et toujours à venir à toi, à trouver nos solutions en toi, dans ta parole, et parce que tu désires vraiment nous restaurer profondément, de manière qu'on ne soupçonne même pas. Et je te loue, Seigneur, parce que tu le fais, parce que ta parole est la vérité, parce qu'elle est un guide sûr pour nous. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.